Sortie de boîte. Sortie de boîte, Cédric Adrover.
Regardez votre poignet gauche. Ouvrez votre porte-monnaie. Deux actions simples et il y a fort à parier que vous ayez vu un objet fabriqué dans l'entreprise de notre invité ce soir. Un bracelet de montre, un cadran, une carte d'identité, tout ça, ça peut passer chez BWSA, Glovelier. Un groupe associé à une famille, trois générations d'entrepreneurs. Le plus jeune est parmi nous ce soir, mais il n'oublie pas ceux qui sont au-dessus de lui, sur l'arbre généalogique. Quand on le rencontre, une des premières choses qu'il fait, c'est nous montrer une photo. Son grand-père, entouré par deux vaches, sa seule fortune à l'époque. Aujourd'hui, toutes les sociétés représentent plus de 500 emplois. Il y a du respect dans les yeux du petit-fils. Quand on lui demande quelles qualités il a que son père n'aurait pas, il ne répond pas. Il appelle des collaborateurs pour que eux puissent éventuellement donner leur avis, mais pas de prétention de son côté. On visite l'entreprise. Notre invité oublie ses clés. Est-ce le gène du professeur Tournesol ? Selon lui, c'est dans la famille. Toujours est-il qu'une fois à l'intérieur, Tournesol est loin. On voit que l'homme sait de quoi il parle. Il ouvre tout de suite les bons tiroirs pour nous montrer les bonnes pièces. Il parle technique, il nous guide. Mais pas partout, parce qu'on ne visite pas tout chez Biwi. Il y a des processus de fabrication qui doivent rester confidentiels. Notre invité me prévient. Si je vous laisse entrer là-dedans, je serai obligé de vous tuer. Oui, il a aussi le sens de l'humour. Enfin, j'espère que c'était de l'humour. Bonsoir Pascal Bourcard Junior.
Bonsoir.
Vous êtes notre invité jusqu'à 19h. Avec vous, on va parler de Biwi, une entreprise phare dans le canton du Jura. Aussi des start-up que vous dirigez. Avant ça, un mot sur votre parcours. On en a parlé un petit peu dans l'introduction. Cette famille, notamment votre père qui a marqué de son empreinte l'entreprise. Vous portez son nom, son prénom également. La place est toute faite pour vous ou au contraire, c'est une pression dont vous vous passeriez bien ?
Oh, la place est toute faite, c'est un très grand mot. S'appeler Bourcard dans le Jura, c'est déjà pas évident. Alors, imaginez-vous porter le même prénom. C'est vraiment pas évident. Après, c'est en tout cas une fierté pour moi, puisque mon père a fait de très grandes choses et il en fait encore aujourd'hui. Cependant, c'est clair que ça reste quand même une certaine pression parce qu'il faut toujours prouver au quotidien.
Ah, on doit toujours prouver. Comment on fait ces preuves ? Comment on montre qu'on a sa place et qu'on la mérite ?
J'ai été éduqué comme ça, dans l'esprit d'entrepreneuriat de mon père. Il a toujours voulu ou souhaité à ce que je prouve. Et puis, une phrase que j'ai souvent entendue et qu'il a répétée régulièrement, c'est « ce n'est pas le sang qui fait, c'est les compétences ». Donc, à ce moment-là, tout est dit.
Tout a été dit à ce moment-là. Où c'est que vous les avez acquises, ces compétences, du coup ? Dans l'entreprise ?
Donc, on va dire que j'ai fait d'abord mon parcours de mon côté, où j'ai commencé, certes, j'ai été déjà à la base influencé par mon père, où il avait un souhait de commencer par une formation technique. J'ai fait donc le lycée technique à Bienne en tant que micromécanicien. Et puis, donc j'ai fait cette formation pendant 4 ans, et puis j'ai quand même constaté, que voilà, c'était le cas, je n'étais pas manuel, donc je devais partir sur une autre formation à la suite de celle-ci. Et puis à ce moment-là, j'ai fait vraiment ce qui me plaisait, c'était emploi de commerce. Donc là, j'ai fait 3 ans de formation, et puis avant d'arriver au diplôme, et puis en parallèle à cela, mon père m'a donné des missions, notamment liées aux stations essence, où je devais gérer l'administratif, et puis je le faisais en parallèle le soir, rentrant de mon apprentissage, j'allais compléter pour pouvoir répondre à ses attentes.
Faire ses preuves, toujours. Vous décrivez votre père comme un mélange entre le professeur Tournesol, l'entrepreneur Richard Branson et le professeur Folding. Vous avez hérité des trois gènes.
Je ne pense pas. Je pense que j'ai aussi un équilibre différent. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir, je pense, ce côté entrepreneur que mon père m'a toujours transmis. Et puis, j'ai aussi le côté de ma mère, qui est complètement dans un autre contexte, qui est vendeuse en boulangerie. Donc, je pense que ça donne un certain équilibre. Et puis, qu'aujourd'hui, ça fait mes forces.
Vous avez 28 ans, et ils sont rares quand même les gens de 28 ans qui reçoivent 200 mails par jour et pour qui chaque téléphone est un problème à gérer. Comment vous organisez avec ça ?
C'est une gestion au quotidien, ça peut être aussi beaucoup de sacrifices, notamment du côté privé. Je fais du football à côté, je loupe toujours mes entraînements. Ce soir, je devrais être en train de m'entraîner.
On voilà, s'excuse auprès de l'équipe.
Donc, c'est clair que c'est des sacrifices. Et puis, par contre, je n'ai pas ce sentiment de sacrifice du fait que mon métier, c'est ma passion. Donc, je ne le vois, on va dire, pas directement.
Ce métier, il est chez BWSA, pas que. On va aussi parler des autres entreprises. Chaque étage dans le bâtiment a sa fonction. Hein. En haut, on a des start-up, en bas, des projets confidentiels. On donc faire une émission par étage et on commence au rez-de-chaussée, là où il y a les activités principales de BWSA. Vous travaillez le caoutchouc. Pour beaucoup, le caoutchouc, c'est une matière banale. Pour vous, c'est une matière noble. En quoi ?
Alors, je vous ai dit matière noble parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais la BioBio fait du plastique ». Donc, oui, certes, on travaille le plastique, on travaille le silicone, mais notre produit phare, c'est bien évidemment le caoutchouc. Et puis, les gens ne connaissent pas la différence entre du plastique et du caoutchouc. Il faut savoir que si je travaille du plastique, ça sera une dizaine de secondes pour faire mon produit. Et puis, si je travaille du caoutchouc, c'est un produit, comme je vous le dis, noble. Et puis là, il y a des étapes de vulcanisation qu'on appelle. Et puis, faire un simple brassainement peut prendre, simplement en termes de vulcanisation, plus de 3 minutes.
Oui, 3 minutes pour un bracelet de montre. En même temps, qu'est-ce qui distingue la BWSA, le traitement du caoutchouc, d'autres entreprises qui peuvent traiter le caoutchouc ? Vous avez des choses qui vous différencient de vos concurrents ?
Écoutez, je pense que mon père a toujours été précurseur. Aujourd'hui, quand on parle de caoutchouc en Suisse et dans l'horlogerie, on parle forcément de BWSA. Après, c'est clair qu'on a des concurrents, mais on a toujours gardé une certaine avance technologique de par des innovations. Et puis ça, c'était la mentalité, et c'est encore aujourd'hui la mentalité de toujours vouloir innover.
Les clients, c'est essentiellement des entreprises horlogères aujourd'hui chez BWSA.
Principalement, mais pas que. On a passé par différentes étapes de certification, notamment 13485, qui est la partie médicale, qui est très, très importante. Et puis, sans oublier, la partie carte d'identité.
On y reviendra. Je vous propose avant ça de visiter. Jean-Michel Probst a rencontré Pierre-André Salomon. Il connaît les moindres recoins de l'entreprise. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi.
Sortie de boîte.
Une anecdote qui est assez rigolote par rapport à BWSA, c'est que je suis plus ancien que le patron dans la société. Pas de beaucoup, de quelques mois, mais je suis le plus ancien. Donc effectivement, au départ, quand on a créé, on était à peu près 5 personnes. Et on a commencé gentiment avec un département qui fabriquait les joints pour la montre. Et M. Bourcard Pascal a repris ce département pour nous faire évoluer. Ben là, on est maintenant, on est vraiment à la pointe, je dirais, de la maîtrise du caoutchouc par rapport au bracelet caoutchouc.
Alors, si vous êtes d'accord, on va aller dans un des lieux où on travaille cette matière vivante, hein, le caoutchouc.
Tout à fait, ce caoutchouc, c'est quelque chose qui est, comme vous l'avez dit, vivant. Quand vous mettez en œuvre le caoutchouc en début de semaine, c'est pas forcément le réglage que vous allez retrouver en fin de semaine. Donc, on doit travailler avec ça et composer. La matière nous arrive en bande, ce qui est une gomme, et on doit préchauffer cette matière, on vient l'injecter, ensuite on a des moules, comme les moules à gaufres, mais c'est des choses qui sont extrêmement précises et qui doivent résister aussi à des pressions assez élevées. On chauffe les moules à une certaine température, et exactement comme le pain, on opère à une cuisson, et derrière on a tout un travail de finition, de terminaison, pour arriver à un produit de luxe, je dirais.
Est-ce que vous connaissez tout de l'entreprise ?
Oh, tout, ce serait prétentieux de dire que je connais tout. Mais je connais effectivement, de par les années, ça fait quand même depuis mars 1979 que je suis dans la société. Donc effectivement, je connais pas mal de choses. J'arrive à résoudre des problèmes de par l'expérience. J'arrive à aider les gens par rapport à ce qu'on a déjà vécu, par rapport à des pièces qu'on a eu fait ou qu'on ne fait plus et qui reviennent. Donc effectivement, je pense que je connais bien l'entreprise, mais tout, je pense que c'est un peu prétentieux.
Quel est votre sentiment lorsque vous arrivez le matin ici ?
Oh, j'ai toujours un sentiment de fierté. Je pense que moi, quelque part dans cette usine, j'ai un petit coin qui m'appartient. J'ai un petit bout, je ne sais pas où il est, mais j'ai un petit bout dans l'entreprise qui m'appartient. Moi, je suis très fier de travailler et d'avoir participé à toute cette évolution. Au tout côté de la famille Bourcard, parce que j'ai quand même connu 3 générations. Moi, quand je suis arrivé chez Pibourg, c'était M. Pierre Bourcard qui gérait tout ça. Ensuite, j'ai M. Pascal Bourcard qui, lui, alors, a donné un dynamisme à l'entreprise. Il n'y a qu'à voir tous les bâtiments qu'il y a ici maintenant. Et derrière, on a M. Pascal Bourcard Junior qui, lui, alors, prend le relais derrière son papa et je dirais qu'il est en bonne voie, très très bonne voie.
Sortie de boîte.
Il est en tout cas parmi nous, de retour dans notre studio de Delémont, Pascal Bourcard Junior, notre invité jusqu'à 19h. Vous souriez tout à l'heure en écoutant Pierre-André Salomon, c'est un personnage dans l'entreprise.
Ouais, c'est clair, il fait partie de... c'est l'employé le plus ancien chez BWSA. Pour nous, c'est très important, ce genre de personne dans l'entreprise. Et on va dire qu'il fait partie des murs, comme il a pu le dire. Et puis, ils ont, ces employés qui sont fidèles, une faculté de remise en question qui est très importante, parce que comme il le dit, il parle de 3 générations, il a vu beaucoup de monde passer, défiler, et puis les processus ont changé, ont évolué, la manière de travailler a énormément évolué. Et puis, de l'autre côté aussi, chez BUI, on attache beaucoup d'importance à cette fidélité, raison pour laquelle on fait des jubilaires et autres chaque année, afin de remercier ces gens qui sont très fidèles. Et puis, ça a toujours été comme ça et ça le restera toujours.
Comment on accompagne des employés quand il y a des changements technologiques, quand ça évolue très vite comme ça? Comment on fait pour s'assurer que les gens ne résistent pas au changement et l'embrassent, ce changement? Il y a des techniques?
J'ai envie de vous dire que le marché aujourd'hui est très difficile, complexe, il faut savoir se remettre en question, et aujourd'hui quelqu'un qui ne se remet pas en question et qui veut travailler dans le passé ne pourra pas conserver sa place malgré tous les moyens qu'on va lui remettre à disposition.
Parmi vos clients, on l'a dit tout à l'heure, beaucoup d'entreprises d'horlogerie, un secteur qui est quand même en crise, l'horlogerie aujourd'hui, vous la ressentez cette crise, vous ?
Alors oui, la crise est bien présente, tout le monde en souffre, tout le secteur en souffre. On la ressent comme tout le monde, oui, en parallèle à ça, donc il y a un gros travail qui a été fait sur l'innovation et sur les produits, sur les matières. Et puis on a force de proposition aujourd'hui assez puissante.
Il y a des exemples ?
Écoutez, on a des bracelets bicouleurs vulcanisés, c'est des brevets qu'on a posés. On a du Titaplast, qui est un nouveau matériau exclusif, qui est le polymère le plus résistant au monde. On parle de connecter, il y a énormément d'éléments qu'on intègre sur le marché qui permettent aujourd'hui à BUI de pouvoir maintenir le cap et puis de ne pas s'enfoncer.
Vous parlez de connecter dans les bracelets donc ?
Alors, si j'utilise le terme connecté, j'utilise le mauvais terme. On parle de Technolux. Le connecté, c'est Apple qui le fait, c'est Samsung qui le fait. Ils ont des milliards d'investissements dans la recherche et développement. Donc on ne peut pas concurrencer ce genre de produit. Cependant, on a créé un pool, un partenariat, on propose déjà aujourd'hui, on va sortir ça prochainement au prochain salon horloger, des produits avec une connectique intégrée dans des bracelets en caoutchouc, sur des marques horlogères. Donc on va conserver le produit horloger, ça peut être la montre de mon grand-père, et je vais intégrer un bracelet connecté. Donc c'est ce choc des générations, et aujourd'hui c'est ce qu'on veut lancer sur le marché.
Dans le contexte, une autre particularité de BUSA, c'est que vous êtes indépendant aujourd'hui, complètement indépendant. Ça c'est une force ou une faiblesse quand l'économie tremble ?
C'est plus qu'une force, puisque si on n'était pas indépendant, on va dire qu'on serait entre guillemets paxé à un certain groupe, et aujourd'hui c'est toute la force de BUI, c'est de pouvoir travailler avec tout le monde, il n'y a pas de jalousie, et puis c'est la force, et puis ça le restera.
Pas d'exclusivité ?
Aucune exclusivité.
Quand on a visité, il y a un étage qu'on n'a pas pu voir, c'est celui du bas, parce que personne ne peut y entrer à quelques exceptions près. Mais qu'est-ce qui se passe là en bas ?
Là en bas, dans notre, dans notre petit canton du Jura, c'est une fierté, on n'en parle pas beaucoup. Mais on fabrique les cartes d'identité suisses.
Toutes les cartes d'identité suisses ?
Alors on fabrique à peu près 50% de la production complète sur tous les cantons, ce qui peut représenter jusqu'à 70 000 pièces d'identité par mois, selon les périodes. Il y a des pics avant les vacances, évidemment. Et puis, on envoie directement ces cartes aux personnes privées par la poste.
Ah oui, ça part de Glovelier jusqu'aux gens partout en Suisse.
De Glovelier jusqu'à chez vous.
Il n'y a pas de transfert par la Confédération.
Non.
Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir ça ?
Déjà, il y a un secret, il y a un savoir-faire. Vous pensez bien toute cette partie sûreté qu'on ne peut pas. C'est des départements qui sont hautement sécurisés. On a un partenariat avec la Confédération. Donc. Jamais personne ne pourra accéder à ce département en dehors d'une requête spécifiée à la Confédération.
Au-delà des règles soumises données par la Confédération, il y a de l'espionnage industriel, ça existe ?
Ça existe comme partout, comme on peut le voir en Formule 1, comme on peut le voir dans d'autres sports, dans d'autres industries. On est très vigilant à cela, c'est pour ça qu'on pose aujourd'hui énormément de brevets. Ça a toujours été une volonté de mon père et on continue encore aujourd'hui avec notre nouveau directeur général qui est là depuis maintenant 3 ans et qui fait un remarquable travail de pouvoir continuer à déposer sans cesse ses brevets sur nos nouveaux produits.
On ne va pas rester trop longtemps en bas du coup, vu qu'on n'a pas le droit. On monte, je vous propose de monter l'étage du haut. Alors d'abord, il y a une salle où on voit plein de graphiques, des processus, des diagrammes, ce qu'on appelle la certification. Vous la connaissez bien, vous en êtes particulièrement occupé. Ça apporte quoi la certification dans une entreprise ?
La certification, c'est primordial aujourd'hui. Ça nous permet déjà de ne pas se reposer sur ses lauriers, sans cesse se remettre en question. On a des personnes qui viennent chaque année pour auditer. Donc on a des audits de process internes qu'on fait nous-mêmes. Et puis,
concrètement, c'est quoi ? C'est vouloir mettre sur papier tout ce qui se passe, tous les savoir-faire, c'est ça ? Si on devait vulgariser la certification.
Si on devait le vulgariser, je dirais ça comme ça, effectivement, puisque le savoir n'est pas à la personne, mais bien à la société. Le savoir appartient à la société, et c'est la raison pour laquelle on est obligé de mettre en place l'ensemble de processus pour pouvoir formaliser ces choses-là. Et c'est la raison pour laquelle, quand je suis arrivé chez Biwi, donc ma première étape que j'ai omis de dire avant, c'est que j'avais une place disponible en tant que responsable sécurité. Donc j'ai passé les diplômes d'ingénieur sécurité. Et puis ensuite, mon père a souhaité que je parte dans le management qualité afin de pouvoir savoir, quand on allait parler de process, et de produits, de fabrication, de savoir de quoi je parlais. Et puis c'était une étape qui était cruciale et fondamentale pour mon avenir.
Donc aujourd'hui, si quelqu'un part à BWSA, son travail est sur papier et peut être repris tel quel ?
Tout à fait. Et c'est l'objectif, et c'est de pouvoir dire, ben voilà, demain je vous engage, vous arrivez chez BWI, vous allez au département du moulage caoutchouc, et puis votre processus est écrit et vous savez ce que vous devez faire.
Toujours à l'étage du haut, il y a des startups, plusieurs startups, vous êtes le CEO de plusieurs d'entre elles. Quand on est à la tête d'un navire amiral comme BWI, pourquoi vouloir piloter des bateaux plus petits ?
C'est complètement différent, c'est une gestion qui est complètement différente. Quand on parle de start-up, on parle d'émotions qui sont complètement démultipliées.
C'est-à-dire ?
Alors, je vous donne un exemple. Si par exemple, il y a un bracelet, une erreur sur un bracelet en production, il va partir à l'étape suivante, qui sera le contrôle, et puis là, il sera arrêté, et puis on n'en parlera plus. Tandis que si on parle de start-up, il suffit d'un petit contact, d'un téléphone, d'un flyer qui est distribué, d'un entretien qui est fait avec une personne. On signe un contrat et ça fait complètement évoluer la structure. Et ça peut être l'inverse. Quand je prends l'exemple du bracelet avec un défaut, un mauvais contact peut faire couler une société. Donc les émotions sont sans cesse démultipliées.
Et tout va beaucoup plus vite.
Tout va beaucoup plus vite. Et puis justement, on parlait avant de processus, de management de qualité. Quand on parle de start-up, ces éléments-là ne rentrent pas en compte. C'est une gestion qui est complètement différente. Vous pouvez voir aussi, quand vous avez visité les locaux, la différence entre les personnes. Il y a le formel, et puis dans les start-up, on laisse place à la créativité, c'est des open space, et puis là, il n'y a pas de processus. Mais par contre, il y a certainement, comme vous le savez, toujours une exigence.
Et du coup, au niveau de la gestion des ressources humaines, ça aussi implique une gestion complètement différente. Vous devez encourager les gens à être créatifs, à prendre des risques.
On va dire que de par l'expérience et puis du fait que j'ai une agence de placement de personnel, on arrive assez rapidement à identifier le profil qui est plutôt voué à partir dans une start-up ou dans une structure d'une PME.
Alors, est-ce qu'on doit les définir en quelques mots rapides, ces profils ?
Écoutez, c'est assez simple. Hein. On pose des questions qui sont parfois un peu bateaux, mais par rapport aux réponses, on peut rapidement identifier la personne, si elle est créative ou bien si c'est des profils. Ça dépend aussi du parcours et du cursus que la personne a effectué.
Concrètement, les activités de ces start-up qui sont à l'étage du haut, dans le bâtiment à Glevelier, ça va de quoi à quoi ?
Alors, ça va de tout. On parle de voitures électriques, location de voitures électriques. C'est la société électrique Easy SA qui a été fondée par mon père. On parle de station essence, donc là, on passe du Coq à l'âne. La société Telis SA, on parle de Couche-Tard SARL.
Donc, il n'y a pas une recherche de synergie, en fait.
Pas du tout.
Ouais.
Et là, c'est de nouveau, quand on parlait de professeur Tournesol, c'est bien ce côté-là. Ça part dans tous les sens, et puis on parle souvent de la fougue de la jeunesse, et puis régulièrement c'est moi qui dois dire à mon père, écoute, on va déjà faire ça avant de pouvoir partir sur d'autres choses, parce qu'il a toujours envie de créer, partir sur de nouveaux éléments. Et puis on a également une société de placement de personnel, SPC Cali Service SA, qui a plus de 15 ans, mais qui se situe dans d'autres locaux, et puis c'est ma sœur qui va bientôt reprendre le flambeau.
Une idée devient une entreprise ?
Une idée devient une entreprise, en tout cas c'est le souhait de mon père, et puis je pense qu'il arrive à donner, à inculquer cette créativité. Aujourd'hui, c'est vrai que quand je me balade dans la rue ou le soir, quand je suis seul et que je regarde la télévision, je pense à plein de choses, et puis c'est vrai que je pense qu'il a réussi à un peu m'inculquer cette créativité.
On a beaucoup parlé d'horlogerie dans cette émission, on va rester dans les montres, mais on les déconnecte, on va même les humaniser, avec la chronique horlogère de Marie-Lise Saillard.
Pile à l'heure.
Si je je vous dis l'épée, certains vont penser à l'arme fétiche de D'Artagnan et de ses copains mousquetaires qui affrontaient les vilains gardes du cardinal. Mais je vous rappelle que dans cette chronique, nous parlons d'horlogerie. Au XIXe siècle, le Neuchâtelois Auguste Lépée a franchi la frontière. Il a fondé la marque qui porte son nom en 1839 en France, et même en France voisine, puisque c'était à Sainte-Suzanne, près de Montbéliard.
Mais tu vas voir, toi, de quel bois je me chauffe !
Lépée, c'était la référence en matière de pendule d'officier. Son histoire en France prend fin en 1997. Deux ans plus tard, la marque est rachetée par un Anglais. Lépée est devenue suisse en 2008, quand elle a été acquise par la manufacture d'horlogerie Suiza, basée dans le Jura à Delémont. L'épée 1839, c'est peut-être la seule manufacture de Suisse spécialisée dans la production d'horloges de prestige. Au dernier SIHH, le Salon international de la haute horlogerie à Genève, une pendule de table co-signée par l'épée 1839 et la jeune marque MBNF n'est pas passée inaperçue. Par son côté fun et original, son nom, Sherman, comme le char américain de la Seconde Guerre mondiale. Le Sherman dont on parle, c'est un robot horloge. Il fait une quinzaine de centimètres de haut. Ses pieds sont des chenilles, comme ceux du char. Ses bras sont articulés. Ses yeux, ce sont les têtes de boulon qui soutiennent le régulateur. Le dessus de sa tête est fermé par un verre saphir qui laisse voir son cerveau, matérialisé par le balancier et l'échappement. Pour lire l'heure, il faut regarder le torse de Sherman. C'est là que se trouvent le cadran et les aiguilles. Côté mécanique, c'est un mouvement 8 jours en ligne, l'épée 1839. Sherman peut donc donner l'heure pendant toute une semaine sans qu'on ait besoin de le remonter. Et pour le remonter, il faut une clé qui peut être reposée dans une des mains du robot, composée d'un cercle évidé. On peut aussi y placer un stylo, par exemple. Eh ben, il n'y a pas à dire, Sherman, il a une
petite gueule bien sympathique.
Et c'est vrai qu'il a une bonne tête, ce robot. Regardez, Pascal Bourcard, je vous l'ai pris en photo. Bonne tête, hein ?
Je connais, superbe.
Ouais, vous pouvez aussi voir ce robot sur robot horloge sur notre site internet. Allez jeter un œil. Et puisqu'on parle de produits un peu dingues, on va peut-être terminer là-dessus avec vous. Il y en a eu, hein, chez Biwi, des produits un peu dingues. Si on regarde dans le passé, c'est quoi le produit le plus étonnant que vous ayez vu passer dans l'entreprise ?
Il y en a tellement. J'en prendrai trois. Il y a eu des billes de souris d'ordinateur.
Donc là, il y a
une petite anecdote, c'est qu'une personne vient rencontrer mon père, il lui dit, écoute, je t'aimerais faire une boule en caoutchouc, mais avec 2/10 de Malron, et puis si t'arrives à me les faire, si tout va bien, on en fera entre 1000 et 5000, et puis on en a produit des dizaines et des dizaines de millions.
Les boules de souris.
Voilà, et puis les masques à gaz de l'armée suisse, bien évidemment.
Et si on regarde maintenant dans l'avenir, c'est quoi le produit un peu fou que vous aimeriez voir passer d'ici 5 ans, allez ?
Écoutez, j'ai parlé de Technolux. Ce que je peux vous dire, c'est que les produits qu'on faisait il y a 10 ans, on ne les fait plus aujourd'hui. Ils sont faits en Chine. Et les produits qu'on fera demain, aujourd'hui, on ne les produit pas, on ne les connaît pas encore. Donc, c'est sans cesse en évolution.
On reprendra rendez-vous pour en parler, du coup, Pascal Bourcard, je vous propose.
Avec grand plaisir.
Merci d'avoir été notre invité dans Sortie de boîte. Très bonne soirée à vous.
Merci, bonne soirée.
Une émission que vous pouvez réécouter en intégralité sur notre site internet. Semaine prochaine, Sortie de boîte se rend à la Foire du Jura pour une table ronde en partenariat avec la Chambre jurassienne d'agriculture. On va y parler business, mais business des labels, les labels qui fleurissent partout sur nos produits. Une jungle de plus en plus épaisse, du producteur au consommateur, à qui profitent ces labels. C'est le thème de Sortie de boîte jeudi prochain à 18h30 et c'est Gabriel Devec que vous retrouverez à cette même place. Très bonne soirée.
Sortie de boîte. Thank you.